Maurice est pasteur associé à l'église de Matane dans le but d'implanter une église à Saint-Anne-des-Monts, qui est la belle région de Gaspé. Là. Maurice, ça fait combien d'années qu'on se connaît, nous autres?
Ça ne nous rajeunira pas, là.
Non, ça fait plusieurs années. Hein?
Oui, ça fait...
32 ans. Ouais. 32 ans.
Oui, 32 ans.
Alors, je vais te laisser...
32 ans de bonheur.
Oui.
Est-ce que ça fonctionne, ça?
Oui, ça fonctionne.
Oui, c'est bon.
Je vais te laisser, mon frère.
Déjà?
Bien, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais te laisser compter.
Bien, merci beaucoup, Normand, pour l'accueil. Merci beaucoup pour la présentation. Très généreux, d'ailleurs, dans ses propos, Normand. Ça fait toujours un petit quelque chose aussi quand je vois Normand, là. C'est sûr, hein, on est arrivé presque en même temps là, hein, au Seigneur, puis aussi à l'église de Chomédé, à Laval, avec notre cher M. Héron. Et on a grandi ensemble, on a ri ensemble, on a pleuré ensemble, on a aspiré au ministère ensemble, on a fait des cours de Sambec ensemble. En tout cas, on a fait beaucoup de choses ensemble et c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur conduit nos vies. Un moment donné, whoop, ça fait ça. Puis on est chacun entré dans nos ministères respectifs et le Seigneur nous utilise merveilleusement. Puis à lui soit la gloire. On l'a chanté ce matin. Hein? À lui soit la gloire parce que c'est lui qui prend des gens là où ils sont. Et il les régénère, comme vous avez entendu ce matin à l'école du dimanche. Il nous ramène à l'état initial où il nous a créés, c'est-à-dire qu'il met en nous cette communion que nous pouvons avoir avec lui. Et puis là, par son Saint-Esprit, bien, il nous envoie pour porter le plus merveilleux, le plus glorieux des messages qui soit. Le message, le seul message finalement qui vaille la peine d'être proclamé, parce que c'est le seul message qui porte un fruit, un intérêt. Lui, il vaut c'est tout un investissement et ça vaut la peine de le faire. Alors, merci encore une fois de m'accueillir ce matin. Merci à l'Église de Longueuil. Vous êtes vraiment très généreux de votre temps. Et on sait aussi que le Seigneur veut nous utiliser comme Église pour répandre l'Évangile. Il y a toutes sortes de manières de le faire. Je sais que déjà, vous êtes très engagés dans la région du Bas-Saint-Laurent avec Hugo, que je vois régulièrement. Parce qu'on est ensemble, là. Moi, je suis à Matane et lui, à Rivière-du-Loup. Je l'ai vu encore il n'y a pas tellement longtemps. On a eu une pastorale régionale ensemble. C'était bon de voir Hugo et Lynn. Et on est quelques pasteurs, là. Puis on s'édifie ensemble. Et puis on cherche la direction de Dieu. Comment atteindre stratégiquement la région qui nous entoure. Bien qu'il y ait déjà des églises qui sont là. Mais je vous en parlerai un petit peu plus, un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais regarder avec vous un texte de la parole de Dieu. Parce que nous sommes tous, qui que nous soyons, engagés. Nous sommes tous engagés dans l'œuvre de Dieu. Du moment où je nais de nouveau, je suis un membre du corps, j'appartiens au corps, donc je deviens utile au corps, actif dans le corps et productif. Pour le corps, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, qui que nous soyons, enfants de Dieu, nous sommes connectés à l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas, il vous est sûrement déjà arrivé, probablement, si ça ne vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera sûrement un jour, que vous avez travaillé très fort à quelque chose, vous avez mis tout votre cœur, toute votre énergie, beaucoup de temps et... pour arriver à la fin de votre travail et ne récolter aucun résultat. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. Hein? Tu sais, des fois, on est engagé dans quelque chose, puis c'est par là que ça s'en va, c'est ça qu'on veut faire, on est certain qu'on est correct dans ce qu'on fait, là. On sait qu'est-ce qu'on fait, on a l'habitude, et puis tout à coup, on réalise qu'on a tout fait ça pour rien. Il y a toutes sortes d'émotions qu'on peut connaître à ce moment-là, hein? On peut... peut-être vivre une déception, c'est sûr, de ne pas voir arriver ce qu'on voulait voir arriver, mais aussi cet élément de frustration. Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, j'ai tout fait ce que je devais faire. Ou encore le découragement. Ah ben si c'est ça, moi, je lâche. Ça ne vaut pas la peine. J'ai tout essayé, puis ça ne fonctionne pas. Hein? Ou encore la fatigue. Et la fatigue, parfois, c'est dangereux. parce que la fatigue peut nous envoyer un mauvais signal. Moi, je me souviens, quand j'étais chauffeur d'autobus, justement, à Laval, il n'y a pas tellement longtemps, à la fin des classes, j'arrive au cégep, et un étudiant, en montant dans l'autobus, m'a dit deux mots qui exprimaient exactement ce que je viens de vous dire, là. Pas de bonjour, rien. On avait, vous savez, une bouteille pour récolter l'argent, puis il met son 35 sous, ça fait un petit bout, hein, il met 35 sous, ceux qui prennent l'autobus, vous savez ce que je veux dire. Il met 35 sous dans la bouteille, puis il dit, « Monsieur, j'ai coulé. » J'ai coulé! Puis il s'en va en arrière. Ça a été tout ce qu'il me dit. Alors, dans ces deux mots-là, là, j'ai vu toute sa frustration, son découragement, sa déception de toute une année d'études. Ben là, peut-être qu'il n'avait pas assez étudié, je ne sais pas, mais en tout cas, il était découragé. Et quand je pense à ça, je me suis dit, en lisant Luc chapitre 5, c'est exactement ce qu'ont connu les premiers disciples du Seigneur au début de leur ministère. Est-ce qu'il faut peser plusieurs fois sur le clavier? Au début de leur ministère avec le Seigneur Jésus-Christ, vous verrez en Luc chapitre 5 que le Seigneur a utilisé cette expérience-là pour leur enseigner quelque chose de très important. Puis ça, pour moi, c'est très important parce que dans ma vie, comme disciple, comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, que nous sommes tous et toutes, nous avons besoin de nous rappeler. Nous avons besoin d'être conscientisés à cette vérité-là ou cette réalité que les disciples ont appris cette journée-là. Donc, on va le lire ensemble, premièrement, dans Luc, au chapitre 5. Au verset 1, et ensuite nous allons regarder ensemble les éléments que le Seigneur leur a enseignés. Alors Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans prendre rien pantoute. » Mais, il y a un point virgule, hein, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Aïe! Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque nous nous arrêtons comme ça pour lire ta parole, ça peut être de belles histoires, mais sans plus. Ça peut être des mots sur du papier, sans plus. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta grâce, par ta volonté, Seigneur, tu peux faire que ces mots-là prennent vie en nous et nous permettre de te voir encore un peu mieux, de comprendre encore un peu mieux et de nous permettre, Seigneur, d'accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit maintenant pour nous conduire dans ta parole Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous aider à appliquer cette parole à nos vies, afin de te glorifier dans notre quotidien et là où tu nous appelles, Seigneur, à jeter le filet. Donc, sois avec nous, Seigneur. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Trois principes de base, trois réalités qui sont encore tellement importantes pour nous aujourd'hui de comprendre et de nous rappeler lorsqu'il est question d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, le titre de ce message ce matin, c'est « L'œuvre de Dieu, trois réalités importantes ». C'est vraiment de base. C'est de base parce que la question que nous pourrions nous poser en lisant ce texte, premièrement, et puis moi, je me la suis posée honnêtement, c'est comment ça se fait que des hommes qui ont passé leur vie de la pêche, ils ont déjà, ils savent c'est quoi, jeter des filets, c'était pas des enfants d'école, ils n'étaient pas à leurs premières armes, là. Comment ça se fait qu'ils ont passé toute une nuit sans prendre de poisson? Est-ce que ils connaissaient pas suffisamment l'endroit pour savoir qu'il était peut-être temps de changer d'endroit? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment leur métier pour savoir que quand ça mord pas, faut changer sa technique? Est-ce que, à moins qu'ils aient passé la nuit à dormir dans la barque? Oh, ce serait surprenant, ils en parleraient, hein? Est-ce qu'ils seraient devenus physiquement inaptes, trop vieux pour la pêche? Rien ne laisse supposer cela, n'est-ce pas? Pourquoi ces hommes ont-ils passé toute une nuit à la pêche sans prendre un seul poisson? Bien, je crois que la réponse est simple. En tout cas, la réponse que j'ai personnellement à ce sujet, c'est que simplement que Jésus a éloigné le poisson. Pour le besoin, Jésus, cette nuit-là, a éloigné le poisson parce qu'il avait besoin d'enseigner quelque chose de très important à ses disciples au début de leur ministère avec lui. Voyez-vous? Car Jésus n'aurait pas éloigné le poisson simplement pour le plaisir de faire travailler ses disciples en vain. Jésus aura éloigné le poisson parce qu'il était important pour eux de comprendre quelque chose. Et il est important pour nous aussi de le comprendre, que l'œuvre de Dieu ne dépend pas des efforts humains. Je n'ose pas peser trop souvent parce que j'ai peur qu'ils partent en peur. Mais là, je suis en train de peser sur le clavier et il ne fonctionne pas. Encore une fois, il ne marche pas. Oui, il marche. Est-ce que je serais mieux de laisser tomber le clavier ou que... Oui, on continue? OK. Pour moi, c'est une interférence, là, cette affaire-là. Je suis en train de vous parler, j'ai l'impression de... Attendez un peu, là, je vais jouer avec ma bebelle, puis après ça, je vais vous parler, là. C'est comme que, tu sais, tu vas chez quelqu'un, puis il joue aux jeux vidéo, là, oui. Ou bien, il écoute son téléroman, là, tu sais, là, puis le hockey, là, tu sais, oui, j'ai eu mal au ventre. Oui, non. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, ne repose pas, n'est pas soumise et ne dépend pas de l'effort humain. Bien que Dieu utilise les capacités humaines, utilise les dons, utilise les talents, utilise nos personnalités, l'œuvre de Dieu ne dépend pas d'elle. L'œuvre de Dieu dépend de la puissance de Dieu. L'effort humain glorifie les capacités humaines. Là, je suis en train de vous oublier, excusez-moi. Bon, est-ce qu'il faut tout le temps peser deux fois? Tu sais pas, OK. OK. Je vais arrêter de te questionner, là. Je suis en train de tourner tous les regards vers en arrière. C'est lui le coupable. Ça ne fonctionne pas. Non, il y a de l'interférence. Voulez-vous fermer vos bibis, s'il vous plaît? Voulez-vous fermer vos ordinateurs, vos montres, vos... Il doit y avoir de l'interférence, là. Alors, voyez-vous, l'effort humain, là, ça glorifie les compétences humaines, ça glorifie les connaissances humaines, puis ça glorifie les capacités humaines. Et l'apôtre Paul dit, dans sa parole, et je paraphrase ici, bien sûr, que les compétences humaines masquent la puissance de Dieu. Vous savez, si Arnold Schwarzenegger arrive ici aujourd'hui, puis il prend notre frère ici, puis il le soulève à bout de bras. Il n'y aura rien d'extraordinaire là, hein? Vous allez dire, waouh, Arnold, il est fort. Mais si c'est moi qui le soulève, vous allez dire, waouh, Dieu fait de grandes choses avec notre frère Maurice. Les compétences humaines masquent la puissance de Dieu, parce que c'est la compétence humaine qu'on voit et non pas la puissance de Dieu. Donc Dieu prend les choses simples, prend les choses, j'allais dire viles, mais c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi, et il les utilise pour se manifester à travers elles. Il prend un chauffeur d'autobus et il lui dit, il lui donne un talent. Je le dis, il lui donne la beauté, mais je ne le dirai pas. Vous pouvez le penser, par exemple. Dis bravo. Ma mère, elle pense, elle. Mais elle a bon goût. Alors, où c'est qu'on était rendu, là? On est-tu rendu dans la connaissance, là, ou bien dans l'orgueil? Oui. Dans les deux, hein? Voyez-vous, l'œuvre de Dieu repose sur la puissance du Seigneur. Et c'est important pour les disciples du Seigneur de l'apprendre dès le début de leur ministère. Puis c'est important aussi pour nous de nous le rappeler. Savez-vous pourquoi? Parce que nous pouvons arriver à vivre de la frustration. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous... Bien, peut-être pas devant la personne, mais d'être frustré de ce qu'une personne ne comprend pas l'Évangile? Hey! Non, mais, coudon, es-tu bouché des deux bouts? On dit ça, hein? Non, mais il me semble que c'est tellement simple. Si, là, elle ne comprend pas avec ça, elle ne comprendra jamais, là. Je suis aussi bien de laisser faire. Tu sais? Elle ne comprend pas de toute façon. Et on oublie une chose. C'est que ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que le Saint-Esprit fait à travers ce que je dis qui fait la différence. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu est puissante à cause du Saint-Esprit qui agit. Mais nous, on a pour ce principe que si je lui dis la loi 1, 2, 3, 4, le résultat, c'est le salut. Elle ne se convertit pas, bien là, elle ne comprend rien. On va passer au prochain. On la laisse aller, je ne dirais pas chez le diable, mais ça ressemble à ça, là. Ça ressemble vraiment à ça. Qu'est-ce que j'ai un matin, moi? Pour moi, c'est la bebelle ici qui... C'est la bebelle qui me fait pas. Mais, voyez-vous, le Seigneur a dit une chose bien importante. Hein? Il a dit, priez le maître de la moisson. S'il y a quelqu'un qui aurait pu oublier la prière puis qui n'en avait pas vraiment besoin, c'était qui? C'est bien le Seigneur Jésus. S'il y a une personne qui était un exemple de prière, c'est qui? Seigneur Jésus. La prière est la manifestation de notre compréhension, de notre dépendance de Dieu. Donc, si je veux savoir comment moi je crois que je dépends de Dieu pour accomplir son œuvre, bien, j'ai juste à mesurer mon temps de prière. Puis, ma prière égale ma croyance dans la puissance de Dieu. Moins de prière, plus de croyance dans ma capacité à accomplir les choses. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pour Jésus. » L'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos capacités, de nos connaissances et de nos habiletés. L'œuvre de Dieu dépend de la puissance et de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Mais il a aussi dit, « Je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et ça nous rappelle que le Seigneur veut nous utiliser pour le faire et que c'est une grâce qu'il nous fait afin que nous puissions un jour nous réjouir avec lui de l'œuvre qu'il a accomplie. Hey, quand je pense, moi, à la personne qui m'a annoncé l'Évangile, un jour dans l'éternité, il va pouvoir se réjouir de me voir là. Est-ce que vous allez être heureux de voir les gens autour de vous à qui vous avez annoncé l'Évangile en train de louer et de glorifier le beau nom de notre Seigneur? Imaginez-vous la chorale là, dans l'éternité. Hey. Il y a des membres de la chorale qui vont être là et que le Seigneur va m'avoir utilisé pour leur annoncer l'Évangile. Les enrôler dans la chorale. Je bâtirai mon Église. Réalité très importante. Non, ça ne repose pas sur les capacités humaines, ça ne dépend pas des efforts humains, mais par contre, ça s'accomplit à travers l'obéissance humaine. Pensez-vous que Jésus avait besoin de dire à Pierre, « Jetez vos filets. » Il aurait pu faire ça, puis toutes les poissons auraient sauté dans la barque. Hein? Imaginez-vous, celui qui a dit à un grand poisson, « Attends un peu, parque-toi là, bouge pas. » Quand je vais donner le signal, tu iras ramasser Jonas. Nyaam! En va Jonas. Pensez-vous que celui qui a dit, OK, ça fait 3 jours qu'il est dans toi, pas trop, là. Attention, retiens-toi. Hein? Viens-t'en sur le bord de la plage. OK, brut. Mais il est sorti blanc un peu, là. Mais celui qui a la capacité puis le pouvoir de faire ça, là, pensez-vous qu'il n'aurait pas été capable de dire, OK, les petits gars, d'embarque. Il me semble d'avoir les disciples, hein, sont là, qu'est-ce qui se passe, non? Il n'y en avait pas de poisson ici, pourtant. Oui. L'œuvre de Dieu s'accomplit à travers l'obéissance humaine. C'est important, ça. C'est vraiment important, parce que le Seigneur a dit que l'obéissance humaine, c'est ça qui va nourrir notre foi, parce que je lis la parole de Dieu, je vois ce que le Seigneur veut, je lui obéis et ma foi grandit. Ma foi grandit. Plus j'obéis, plus j'expérimente la parole de Dieu, plus j'expérimente sa présence, sa puissance et plus ma foi grandit. Et l'obéissance, ça cultive l'humilité aussi. Parce que ça me permet de voir que finalement, là, c'est pas moi, ça. C'est pas moi qui fait que parce que je parle à quelqu'un, tout à coup, il accepte le Seigneur. Moi, je me rappelle mon voisin. André Major, tu étais là, hein, Normand? André Major, imaginez-vous. Hey, André Major, quel homme extraordinaire. Un de mes bons amis dans le Seigneur, un frère dans le Seigneur. C'est un voisin. Il chante tout le temps, puis il lave son auto, la grosse bière sur le champ. Je peux vous le dire. Il va vous le dire lui-même, puis il est très heureux de le dire. La musique au bout, et puis on lave le char le samedi, puis j'allais dire, on mange des hot dogs, puis on rote, puis on boit de la bière, puis la vie est belle, puis c'est samedi, puis on travaille pas, tout ça. Puis il y a son voisin à côté qui joue de la guitare, puis qui chante, puis il aime bien ça, ça fait qu'une bonne journée, il vient chez nous, avec moi, pour chanter, je l'invite, je dis, hey, viens, André, j'ai un chant que j'aimerais ça faire avec toi, puis on pourrait faire des voix ensemble, et puis, vous savez, c'est « Si tu t'appelles mélancolie ». Bon. Alors, moi, j'ai changé les paroles, parce que quand je vais dans des résidences de personnes âgées, ou j'aime bien changer les paroles de ces chants-là, et j'appelle « Invite Jésus dans ta vie ». Hein? Il viendra combler ta solitude. Alors, j'invite André à venir. Et là, je dis, André, ça, c'est la chanson de Joe Dassin. Puis j'aimerais ça que tu fasses la voix. Puis moi, je vais faire l'harmonie. Puis on commence à chanter. À la fin de la chanson, il accepte le Seigneur. Il se convertit là. Je vous en parle, j'en ai des frissons. Hey, ma chanson, là, était pleine de fautes. Il y avait des places, il n'y avait pas de S. Il manquait des barres, c'était. C'est un brouillon, cette affaire-là. Mais le Seigneur, lui, là, c'est pas de ça, lui, que c'est ça. Non, le Seigneur lui fait une autre affaire. Ce que le Seigneur était en train de faire, c'était miraculeux. André Major est entré chez nous en rotant sa bière, puis il est sorti de chez nous en louant Dieu. Et le dimanche matin, puis ça, j'ai jamais rien dit, là. Le dimanche matin, je sors pour aller à l'église avec mes enfants. André Major, la cravate, la fumée. J'ai dit, tu t'en vas, André? Je m'en vais à l'église, voyons. Il dit, je suis un chrétien, moi, maintenant. Ça faisait juste 7-8 heures qu'il était chrétien. Ah oui! C'est ça, l'œuvre de Dieu! Écoute, là, j'ai dit, wow, it's not about me. J'étais-tu content qu'un peu? Voyez-vous, l'obéissance fait des miracles. Et le Seigneur utilise ses enfants et ses serviteurs et son disciple pour le faire. Et aussi, l'obéissance reflète le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il y a une chose que l'obéissance demande, c'est la douceur. Avez-vous remarqué un cheval? Comment est-ce que c'est fort, c'est imposant, c'est majestueux? Quelle belle bête, un cheval! C'est-tu beau, hein, qu'un peu? Hein? Bon, les cadeaux que ça laisse, c'est peut-être moins beau, là. Nous, chez nous, il y avait un laitier, là, puis il passait à cheval. Puis si on voulait savoir si le laitier était passé, on regardait dans la rue. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'histoire du cheval du laitier. Mais, voyez-vous, il était tellement doux, ce cheval-là. Moi, il m'impressionnait. Premièrement, il aimait son maître. Il obéissait à son maître et il faisait exactement ce qu'il devait faire, rien de plus. Assez qu'on oubliait que la charrette est attirée vers un cheval. Parce que le laitier, il s'en occupait même pas. Il sortait de la maison, le cheval partait, il avançait à l'eau. Il faisait tout ça tout seul. Il était doux, ce cheval-là. Mais pourtant, il aurait pu défoncer n'importe quoi par sa force. Mais son obéissance, moi, ce que je voyais, c'était sa douceur. Et s'il y a une caractéristique du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est présenté devant ses disciples, il dit, « Regardez-moi, je suis puissant et glorieux! » C'est vrai? Ah, il a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Puis il dit, « Je veux que vous soyez comme moi. » C'est comme ça que vous allez rejoindre les cœurs. Le chemin du cœur se trouve à travers la douceur. La douceur est l'arme la plus puissante, bien-aimé. N'oubliez pas ça. L'obéissance manifeste la soumission à la voix de notre maître. Ça ne dépend pas de l'effort humain. C'est pas soumis. L'œuvre de Dieu ne connaît pas cette loi de l'effort humain. L'œuvre de Dieu est soumise à la loi de la puissance divine. L'œuvre de Dieu utilise l'obéissance humaine et l'œuvre de Dieu, à travers ce texte, nous voyons, est notre raison d'être. Pourquoi on est ici? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous prend pas lorsqu'il nous sauve et nous amène tout de suite avec lui? Puis nous épargner toutes ces tribulations, puis toutes ces souffrances. Il y a des choses que ce n'est pas facile. Est-ce que parce que nous sommes croyants, que nous sommes épargnés de toute douleur, de toute souffrance, de toute larme? Je parlais avec Lise avant la réunion, puis on parlait de notre petit-fils, là, quand il est venu au monde avec il y avait un problème au cœur, en tout cas, là. Une hernie diaphragmatique, c'est ça. Tous les muscles à l'envers, le trou. Mais mes amis, quelle période difficile ça a été! Oh! Mais ça n'empêche pas que nous sommes sur la terre pour une raison. Et nous avons pu expérimenter la présence, la gloire, la puissance, l'amour de Dieu à travers cette épreuve-là. mais en même temps, ça nous rappelle que nous sommes sur la terre pour une raison. Tu sais, ces gars-là, là, ils ont passé toute la nuit à pêcher. C'est leur gagne-pain, c'est leur vie sur la pêche. Puis là, là, ils ont une pêche extraordinaire, miraculeuse, ça déborde. Ils s'en viennent sur le bord du rivage, puis ils laissent ça là. Ils laissent là. Hey, les gars! Ils laissent le pêche là et ils le suivent. Ces hommes ont réalisé, ont compris que si je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, si je le suis, il leur a déjà montré qu'il est capable de pourvoir à leurs besoins. Je ne suis plus maintenant attaché au bien de ce monde. Je ne dépends plus maintenant de ce que je peux posséder. Maintenant, mes yeux sont sur le royaume de Dieu. Je suis le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et je vous laisserai méditer pour vous-même, il y a deux petits mots très importants dans ces deux versets, et c'est le mot « mais » et c'est le mot « que » qui donne tout le sens à ces versets. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Et aussi, bien, nous savons que l'apôtre Paul nous rappelle que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Parce que de toute façon, le Seigneur nous l'a promis, toutes choses nous seront données par-dessus. Donc, c'est à nous de choisir cette vie ou la vie à venir. Le Seigneur nous laisse le choix, de toute façon. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2, dans la version de la parole vivante. J'aime beaucoup cette version. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés. » C'est ça la régénération, bien-aimés. Il nous a remis à l'état initial. OK, notre corps, quand je me regarde dans le miroir, je sais qu'il y a encore un petit bout à faire là, mais spirituellement parlant, il nous a recréés. Il nous a ramenés à la vie de mort que nous étions. Mais c'est en Christ maintenant que nous sommes vivants, pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Pourquoi? Pour sa gloire, pour le royaume. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Et regardez, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Tout est là, c'est prêt. Nous avons juste à marcher dans le chemin que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Tous les matins, mon épouse et moi, assis dans le salon, on demande à Dieu, « Seigneur, montre-nous aujourd'hui, donne-nous l'intelligence de voir le rendez-vous divin que tu as préparé pour nous. » Parce que le Seigneur prépare des rendez-vous divins. J'étais un rendez-vous divin pour le jeune homme qui m'a présenté l'Évangile. N'oublions pas cela. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu, bien, on comprend à travers ce texte qu'elle ne repose pas sur nos efforts, s'accomplit à travers notre obéissance et à notre raison d'être sur la terre parce qu'elle appartient à Dieu. Elle s'accomplit par Dieu. Et l'œuvre de Dieu, bien, glorifie Dieu. Moi, la question que je me pose maintenant à ceci, c'est, suis-je disposé, moi, à accomplir l'œuvre de Dieu? Suis-je disposé à accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour moi? Et voyez-vous, la raison pourquoi je marque « suis-je disposé », c'est que nous sommes portés, comme Marthe, à avoir besoin d'entendre la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais c'est beaucoup plus naturel pour nous de glisser dans « si je peux voir la gloire de Dieu, ah là, je vais croire bien plus encore. » Mais ce n'est pas comme ça, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est « crois, obéis et tu verras la gloire de Dieu. » Et aujourd'hui, bien, je suis venu pour vous dire aussi que le Seigneur nous appelle à laisser toute chose et le suivre. Car l'œuvre de Dieu comporte aussi un appel particulier sur certains d'entre nous. Peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à à un ministère particulier qui vous obligera à laisser votre barque sur le bord de la rive. Ils laissèrent tout et ils le suivirent. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi au désormais. Alors, rapidement, permettez-moi de vous présenter mon épouse qui n'est pas là ce matin. Malheureusement, on est parti depuis mercredi et à manquer de gaz, là. C'est vrai que je mets du jaune. Peut-être j'aurais dû mettre du super. Non, mais vrai. À manquer de gaz. On a été très, très engagés depuis mardi, finalement, que ça roule. Et on était à gauche et à droite et encore tard hier soir. Et ce matin, ça partait pas. Je me suis appelé tout seul. Mais c'est Vicky, mon adorable épouse que j'aime de tout mon cœur, qui est avec moi dans la réponse au Seigneur. Voici nos enfants, Benoît et Daniel, que Normand et Élise connaissent bien. Peut-être certains d'entre vous aussi vous connaissez. Et nos petits-enfants, nous sommes parents de deux garçons et grands-parents de 5 petits-enfants. Il y a une petite fille là-dedans, là, voyez-vous, là en bas, là, Catherine, qu'elle s'appelle. Et j'aimerais juste vous présenter la vision de l'association. Est-ce qu'il me reste encore 5 minutes?
Ah oui.
10? OK. La vision de l'association des églises. L'Association des églises baptistes évangéliques du Québec a cette vision d'implanter une église dans chaque MRC de la province. Et comme vous connaissez bien la Gaspésie, pour ceux d'entre vous qui le connaissez, nous savons qu'il y a déjà une église de l'association à Gaspé, il y a une église de l'association à Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, ça que vous connaissez bien aussi, mais il n'y en a pas à Saint-Anne-des-Monts. Maintenant, il y a à Saint-Anne-des-Monts les frères qui sont là et il y a aussi un centre évangélique, mais pas de l'église de l'association. Et moi, je suis persuadé que plus il y a d'églises et plus l'Évangile se répand. Et notre désir, c'est d'aller aider nos frères qui sont déjà là-bas à apporter un témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la MRC, c'est une municipalité régionale de comté. Donc, les villes et villages des alentours viennent chercher leurs services dans cette municipalité-là. Donc, comme Capcha et Capucin, en passant, mon épouse est native de Capcha, et c'est là que j'ai connu le Seigneur à Capcha. Donc, les municipalités autour vont chercher leur service à Saint-Anne-des-Monts, mais pas le contraire. Donc, si nous atteignons Saint-Anne-des-Monts, c'est sûr que nous touchons à toute cette région-là. Donc, la MRC de Saint-Anne-des-Monts comprend environ 12 900 personnes. La MRC de Matane, elle, qui s'étend des Méchins jusqu'à Baie-des-Sables, comprend environ 22 650 personnes. Maintenant, appelons ça la MRC de la Haute-Gaspésie, qui comprend environ 35 500 personnes. Voyez-vous? Et la chose est ceci, là, maintenant, c'est que Matane, voyez-vous les deux lignes blanches, là, Matane est la seule église de notre association qui est là. Et pour atteindre toute cette région-là, bien, jusqu'à la Madeleine, il y a au moins trois heures de route, là. Et croyez-moi, pour ceux qui connaissent la région, M. Collin ici, là, vous savez qu'il y a de la... Hein? Il y en a-tu de ça un peu, là? Alors, moi, je suis allé encore à Gaspé il n'y a pas tellement longtemps, là, puis je me suis dit, « Hey, les gens voyagent une heure et demie hein, pour aller à l'église. » Même des fois 2 heures, il y avait quelqu'un à Gaspé qui avait voyagé 2 heures pour être au déjeuner de l'espoir. 2 heures! Aïe, aïe! Mais là, ça, c'est l'été. Imaginez-vous l'hiver, là. Donc, on a des gens à Matane qui viennent de Saint-Anne-des-Monts à l'église de Matane qui voyagent 1 heure l'été. L'hiver, savez-vous ce qu'ils font? Ils ne viennent pas. C'est aussi simple que ça. Quand il neige, là, sur le bord du fleuve. Donc, notre désir, parce que là, ce qui arrive, c'est que Matane voudrait atteindre toute cette région-là. Moi, j'ai connu le Seigneur à Capcha. Et toutes ces années durant, le 1er septembre 1977, aller jusqu'en 2000, toutes les années, j'allais à Capcha, j'allais dans la Gaspésie, mais c'était ma période de vacances. J'allais visiter la Gaspésie, j'allais me reposer en Gaspésie, j'aimais la Gaspésie, j'aime la sentir. Hey, ça sent-tu bon, hein, sur le bord du fleuve? C'est débile. Ah! Mes amis, vous manquez quelque chose. La verrette, hein? La bonne odeur du poisson qui est en train de pourrir, là. Ah! Est-ce que ça sent bon? Non, mais c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors, toujours est-il que... si je t'ai rendu... Ah oui, puis c'est ça. Aller jusqu'en l'an 2000. Mais mon beau-père est décédé en 2000. Et j'étais à Capshaw. Et Capshaw, ça s'appelle Capshaw justement parce que la ville est bâtie sur un cap. Il y a aussi un rocher en forme de chat, là. Mais la ville est bâtie sur un cap. Alors, quand on est sur la 132, là, il y a le fleuve. C'est très, très bas. Puis, la ville est comme très haute. C'est comme ça. Puis, tous les matins, moi, à Capshaw, j'allais au bord du fleuve pour avoir un temps avec le Seigneur. Mais lors du décès de mon beau-père, il s'est passé quelque chose en moi. Et j'étais sur le bord du fleuve, et là, il y a le cimetière. Et je me tourne, et je vois la ville de Capshaw. Et là, la vision que j'ai eue, c'est les gens partent de là, et ils s'en vont là. Et toi, là, Maurice, là, t'as connu le Seigneur ici. Le Seigneur t'a sauvé ici. Mais quel témoignage est-ce qu'il y a ici de l'Évangile? C'est le fun, là, tu viens en vacances, on va chanter dans les résidences, puis après ça, on pack le case, Montréal. Mais il se passe quoi après? Et là, j'ai vraiment été interpellé. Et le fardeau pour la Gaspésie est né ce jour-là. J'ai commencé à avoir un feu en moi, un désir de pouvoir œuvrer là-bas. Mais vu la santé de mon épouse, je savais que c'était impossible pour nous d'aller nous établir en Gaspésie. Et j'ai commencé à prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Seigneur, j'ai commencé à prier pour la Gaspésie, et tout spécialement pour Saint-Andémont. Sans connaître la vision nécessairement de l'association, je priais pour Saint-Andémont, je voulais avoir une église de l'association là-bas. Et pendant 8 ans, j'ai prié. Et le Seigneur m'entend, là. Je peux vous dire la vérité, le Seigneur m'entend, c'est ce que je vais vous dire, c'est vrai, là. Il n'y a pas un matin et il n'y a pas un soir que je me suis levé ou couché sans penser à la Gaspésie, à tous les jours. C'est devenu comme une obsession en moi, c'est devenu quelque chose qui m'empêchait de fonctionner. La Gaspésie était tout le temps là. Tout le temps, ça me faisait penser quand l'apôtre Pierre a eu cette vision, là, puis que Corneille, il fallait qu'il aille voir Corneille, là, ou l'apôtre Paul, quand il a eu la vision, puis il a dit, viens secours-nous. Là. Et c'était plus fort que moi, c'était en moi. Et pendant 8 ans de temps, j'ai prié pour ça, mais j'ai prié pour que le Seigneur envoie quelqu'un. On est de même, hein? On a la miséricordia, mais pour les autres. Moi, j'étais bien, hey, écoutez, là, comment ça s'appelle, Marie-Hélène est ici avec son mari, là, ils savent, il était dans mon église avec moi à Laval, là, j'étais bien, allô, ouais, j'étais bien là-bas, là, puis j'aime les gens là-bas, puis je suis bien là où je suis, mais il y a quelque chose qui se passe là, ça brûle, et un frère me dit, « En as-tu parlé avec le pasteur de Matane? » Moi, je ne voyais pas l'idée d'en parler avec le pasteur de Matane, mais une journée, je m'assois avec lui, je lui raconte ça. Ça faisait 8 ans qu'il faisait la même prière que moi. 8 ans! On dit, en même temps, le Seigneur l'a touché, et puis en même temps, le Seigneur m'a touché. Sauf que lui, sa prière était un peu différente, puis est en train de tourner avec les années, puis du moment où elle est devenue concordante à la mienne, paf, on s'est rencontrés. Puis quand je lui ai dit ça, il dit, hey, ça fait juste quelques mois, j'ai exactement la même prière. Mon fardeau, mon désir, c'est que Matane implante une église à Saint-Andémont. Et je prie que Dieu nous envoie quelqu'un à Matane pour nous aider à le faire. Et quand j'ai raconté ça à l'église chez nous, on venait d'établir notre vision pour l'année, puis c'était d'aller aider des églises à accomplir leur ministère. Donc, ça a tombé pile partout. Alors, on en a parlé à l'association et tout le monde a été d'accord pour œuvrer avec Matane. Et maintenant, Matane a fait un appel directement que je puisse aller et nous avons répondu. Et le verset qui m'est venu, c'est « Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » J'ai un peuple nombreux. Il y a 35 550 personnes dans cette région. Ils ne connaissent pas tout le Seigneur. Il y a de la place pour des églises, là. Et on veut bâtir une église, là. Donc, 90 kilomètres entre Matane et Saint-Anne-des-Monts. C'est quoi notre raison d'être? Que ce soit Longueuil, que ce soit Laval, que ce soit Matane, nous sommes la lumière du monde. Et la vision de Matane, c'est Saint-Anne-des-Monts. Sa mission, c'est faire des disciples. Et lorsqu'on parle de faire des disciples, bien sûr, il est question d'un plan. Comment on peut faire ça? Et seul Matane n'était pas capable de le faire. Mais en implantant à Saint-Anne-des-Monts, voyez-vous le rayonnement qu'il y a là? Donc, c'est notre désir ensemble, Israël et moi, de répondre à l'appel du Seigneur. Alors, Vicky et moi, on a déménagé en Gaspésie cet été et notre but maintenant, bien, c'est de pouvoir offrir à cette région l'Évangile et on dépend de Dieu pour le faire, bien sûr. Donc, voulez-vous prier avec nous? Voulez-vous œuvrer avec nous? C'est tellement un grand privilège de juste pouvoir vous partager ça. C'est parce que là, je vois le temps à passer, donc je vais aller juste rapidement. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et c'est ça qu'on a fait, Vicky et moi, cet été, on est déménagé en Gaspésie. Et honnêtement, ce qui était difficile, c'est les gens, parce qu'on a beaucoup de liens. Ça fait 32 ans qu'on est dans la même église, 32 ans, là. Donc même plus que ça. Ça fait-tu 32 ans? 77 à 2008? Oui. Alors, on a le mandat, bien-aimé. On a le message, on a le moyen. Le moyen, c'est le Saint-Esprit. Hein? Mais la méthode, ça nous appartient. Dieu veut nous laisser utiliser la méthode qu'on voudra en autant qu'on est obéissant à accomplir son œuvre. Est-ce qu'on veut le faire? Hein? Le résultat ne dépend pas de nous. L'œuvre de Dieu ne dépend pas des efforts humains. L'œuvre de Dieu s'accomplit à travers l'obéissance humaine. Et l'œuvre de Dieu est notre raison d'être sur cette terre. Donc, dépendons de l'action du Saint-Esprit par la prière. La prière dit « Je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il peut accomplir son œuvre. » J'aimerais vous inviter à prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, on veut vraiment te remercier. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu vers nous. Un jour, tu as envoyé une personne vers nous. Quelqu'un qui a été obéissant à ta voix. Quelqu'un qui a jeté le filet. Et qui t'a laissé faire l'œuvre dans nos vies. Et aujourd'hui, à notre tour, Seigneur, on veut le faire. On veut te remercier. Parce que tu nous as donné un message, tu nous as donné un mandat, nous avons le moyen. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'être obéissant et d'imaginer une méthode qui va être applicable et conforme à la société dans laquelle nous sommes. Comment rejoindre notre société par l'Évangile aujourd'hui, en 2008? Alors Seigneur, merci. Parce que tu nous appelles en Gaspésie, Vicky et moi. Tu appelles l'Église de Matane à aider nos frères à Saint-Anne-des-Monts et dans la région. Mais tu appelles tes églises aussi partout à travers la province à œuvrer pour toi, dans leur milieu, et comme disait Normand tantôt, dans notre Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, béni Seigneur, nous te prions cette Église ici. Merci pour l'Église de Longueuil. Merci pour chacun, chaque personne qui traverse le seuil de cette porte, Seigneur. Bénis-la. Et permets, Seigneur, que cette Église puisse connaître une croissance miraculeuse comme la pêche que nous avons lue ce matin dans Luc. Une croissance en connaissance, une croissance en nombre, une croissance en sainteté, en obéissance. Au nom de Jésus, nous déposons nos vies à tes pieds. Amen.